phénomène qui inquiète beaucoup l'Élysée. Les étudiants et les lycéens vont-ils rejoindre le mouvement?
C'est encore monté d'un cran aujourd'hui.
La plus rebelle des radios.
Bonsoir.
Vous êtes bien sur Radio Canu, c'est l'heure du Canu Info, il est 19h passé de 4 minutes. Et ce soir, on va vous parler de la situation au Brésil. Ensuite, on reviendra sur un rapport d'Amnesty International qui est inquiète pour le droit de manifester en France sous l'état d'urgence. Mort de la tête d'ananas, autrement appelé Manuel Noriega. Ensuite, on se fera une petite pause musicale. Ensuite, on parlera du massacre en Guadeloupe 50 ans après. Ensuite, on reviendra à Calais où une répression moins visible mais tout aussi présente est en cours. Et on finira ce Canu Info par la palme d'or du festival de Cannes.
Your history's just like Henry the Fourth. On fire, things look dire. Better run like Pericles, Prince of Tyre. Off the scale, cold as a winter tail. Tight as a Jonicus was bound to fail.
Et donc direction le Brésil.
Ouais, le Brésil où ce 28 mai, plus de 100 000 personnes se sont retrouvées sur la plage de Copacabana à Rio de Janeiro, non pas pour se faire bronzer, mais plutôt pour demander la démission du président intérimaire Michel Temer et de nouvelles élections directes. Vous vous rappelez ce nouveau président qui est là, après avoir stop éjecté par une espèce de coup d'État la présidente Dilma Rousseff. Voilà, donc c'est une situation un petit peu compliquée. Et le 24 mai, donc quelques jours avant, des manifestations similaires qui sont déroulées à Brasilia. Cette fois-ci, ont rassemblé 150 000 personnes, donc ça commence à faire du monde. Et le tout malgré une répression brutale qui a fait une cinquantaine de blessés. Le président Temer a même édicté un décret spécial pour que l'armée se déploie pour protéger les ministères. Voilà, c'est dire à quel point il a confiance dans la qualité de ce qu'il produit, puisqu'il veut qu'on protège les ministères avec l'armée. Alors, c'est important de signaler qu'au Brésil, les violences policières, c'est assez balèze. Les forces de l'ordre sont responsables de plus de 3000 morts par an. Voilà.
Et c'est au Brésil, par exemple, qu'il y a des escadrons de la mort, ou en tout cas qu'il y avait il y a quelques années, qui étaient capables. Du coup, c'est des policiers qui rentraient chez eux le soir, enlevaient leur uniforme, ressortaient dans la rue avec leurs armes et allaient flinguer en particulier des gamins qu'ils considéraient comme des délinquants.
Voilà, on peut imaginer donc des forces de police un peu débridées. Et voilà, ces violences policières, elles font que s'intensifier depuis ce coup d'État institutionnel. Alors institutionnel, c'est ça, hein, c'est qu'ils ont utilisé les institutions pour mettre dehors Dilma Rousseff. Et donc c'est la porte ouverte aux violences policières. Alors ce même jour, donc le même jour que ces manifestations de Brasilia, la police militaire brésilienne a carrément tué 10 personnes dans l'État du Pará, au nord du Brésil, lors d'une opération d'expulsion des travailleurs sans terre. Donc il y a 9 hommes et une femme qui sont morts mercredi matin. Lors de cette opération, ça s'est passé dans une ferme. Et alors, l'article précise qu'aucun policier n'a été blessé, mais je suppose qu'ils n'y sont pas les mains mortes. Et il s'agissait d'une, j'ouvre les guillemets, action de récupération d'une propriété agricole qui avait été décidée par un juge, parce qu'il faut savoir que les terres qui sont censées être réservées aux Indiens, où on l'imagine aux plus pauvres du côté du Brésil, ben sont de plus en plus souvent grignotés par l'expansion agricole, d'où on peut imaginer ce type d'expropriation, en tout cas de violence vis-à-vis de ces paysans sans terre, donc 10 sans terre, donc 10 paysans qui ont été tués du côté du Brésil. Alors, par contre, info du jour, ça date de ce matin, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est la Cour suprême fédérale du Brésil qui a donné son feu vert pour que le président Michel Temer puisse être interrogé dans le cadre des enquêtes de corruption qui le visent. Donc, jusqu'à présent, il était ininquiétable puisqu'il avait une espèce d'immunité. Ben voilà, c'est tombé aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a donc cette opération qui s'appelle Lavage Express qui a été lancée il y a 3 ans pour essayer de gratouiller un petit peu ce qui se passe en termes de corruption. Et elle a révélé justement un vaste réseau de corruption qui était orchestré par des entreprises du bâtiment voilà, il s'agissait de truquer systématiquement les marchés publics, notamment ceux d'un géant pétrolier étatique dont on a beaucoup parlé, qui s'appelait Petrobras. Donc tout le monde, beaucoup de monde, à des dizaines de chefs d'entreprise et de politiciens, politiciennes sont tombés, ils sont sous les verrous. Mais Michel Temer, donc ce fameux président brésilien actuel, lui, il a l'air clean, plus clean que clean, sauf qu'il y a 2 semaines, il y a un enregistrement qu'il a super compromis, comme on dit, dans lequel il donne son accord pour acheter le silence d'un ex-député. Donc cet enregistrement est sorti il y a 2 semaines, et donc il s'agissait donc d'avoir la possibilité d'enquêter sur ce bonhomme. Voilà. Alors, Brésil, je vous propose qu'on se décale un tout petit peu au nord-ouest de cette Amérique du Sud. Et alors, ce qui se passe au Venezuela, c'est un peu difficile de le décrire. Au-delà de voilà, sans vouloir vraiment décrire la géopolitique de ce qui se passe, on peut dire qu'il y a un climat très violent, en particulier une violence d'État, avec une violence aussi une violence policière. Et puis il y a aussi une violence de la part d'idées extrêmes de l'opposition qui pourrait être manipulée peut-être par les États-Unis, en tout cas qui peut être pas non plus très très clean d'un point de vue de son soutien invétéré au capitalisme. Mais toujours est-il qu'il y a, ça date d'aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnalités de gauche du monde entier qui se sont mobilisées, qui ont écrit un courrier pour dire voilà, il faut stopper ils disent pas allons d'un côté ou de l'autre, mais essayons de stopper cette violence au Venezuela, parce que là, c'est pas possible, quoi. Il y a un mouvement social qui est durement réprimé. Il y a, comme je l'ai dit, un caractère assez autoritaire du gouvernement Maduro, mais aussi des secteurs, j'ouvre les guillemets, extrémistes dans l'opposition. Bref, c'est des gens qui se disent qu'il faudrait que ça se calme un tout petit peu au Venezuela. Et je terminerai par un ragot concernant le Venezuela. Business is business, parce que la banque Goldman Sachs, donc qui est c'est un peu le super étendard de la grosse banque américaine quand même, mardi elle s'est fait allumer parce que en fait elle a racheté pour je sais pas combien de, enfin une énorme quantité de dettes vénézuéliennes. Alors techniquement, je ne sais pas ce que ça fait, mais en tous les cas, ça apporte une bouffée d'oxygène importante à l'État et au gouvernement actuel. Et donc les manifestants manifestantes de New York en l'occurrence, puisque c'est les gens qui surveillent ce qui se passe au Venezuela, se sont un peu étranglés du fait que Goldman Sachs fasse du business à ce moment-là, quoi. Voilà. En plus sur un territoire qui est plutôt de façon véhémente anti-américain quand même. Voilà.
alors, retour en France, c'est ce fameux rapport d'Amnesty International.
Et oui, puisque Amnesty International, on le sait depuis toujours, Amnesty International, son boulot, c'est de dénoncer, de rendre public toutes les saloperies dont se rendent coupables les États, en particulier les États dictatoriaux. En tout cas, pour moi, Amnesty International, depuis que je suis tout petit, c'est vraiment les gens qui ont dénoncé toutes les dictatures d'Amérique du Sud, tous les totalitarismes d'Europe de l'Est. Ils sont pas d'un côté, ils sont pas de l'autre, ils sont censés être plutôt apolitiques. Et cette fois-ci, ils s'intéressent à un vraiment sale pays, ils s'intéressent à la France. C'est un rapport qui est sorti aujourd'hui, alors pas le fameux rapport annuel d'Amnesty International, mais un rapport comme ils en font sur un problème particulier, et donc sur la France, la liberté de manifester, en particulier sous l'état d'urgence. Alors vous allez voir en lisant, en fait on a un peu l'impression qu'il y aurait comme une sorte de baston, il y aurait un peu nous les manifestants, les flics en face et Amnesty International qui serait au milieu et qui représenterait la loi. C'est-à-dire que on a la troublante impression en lisant ce qu'il raconte que c'est pas du tout à l'État de représenter la loi, que l'État viole la loi comme n'importe quel manifestant. L'État et les flics, de plein de façons, mais c'est ça, que l'État est une sorte de belligérant dans un conflit, et que Amnesty, eux, ils seraient là pour rappeler, le droit, c'est quand même ça, c'est quand même ça, c'est quand même ça. Alors bon, bien sûr, l'État viole la loi comme n'importe quel manifestant, mais l'État est globalement, dispose de moyens assez balèzes pour appliquer la force. Alors voilà, ça donne cette impression bizarre. Bon, lisons un peu eux, ils commencent comme ça. Depuis près d'un an, nous avons enquêté sur le respect du droit de manifestation pacifique en France. Et eux, ils parlent bien des manifestants, en tout cas pacifiques. Le constat est sans appel. L'application de l'état d'urgence et un usage disproportionné de la force ont restreint ce droit donc de manifester, ce droit fondamental de manière préoccupante. Le droit de manifester est un droit fondamental, indispensable à la liberté d'expression, à la possibilité de revendiquer ses opinions et ses droits. Il ne peut être restreint qu'à des conditions très strictes. Les autorités ont pour responsabilité, alors théoriquement, dans la vision qu'on pourrait avoir d'État démocratique, comme dans l'idéal, quoi. Les autorités ont pour responsabilité de protéger tous nos droits fondamentaux, et pourtant, ils sont de plus en plus présentés comme secondaires, les droits fondamentaux, voire comme des menaces qu'il faudrait donc limiter. Alors, Amnesty commence par se préoccuper de tous les trucs qui sont permis par l'état d'urgence. Et donc, sous l'état d'urgence, on a eu 155 manifestations qui ont été interdites en 18 mois. C'est en 18 mois, 155 manifestations, la préfecture a juste dit non, il n'y aura pas de manif.
Ça fait une tous les trois jours.
Eh ben oui, c'est exactement ça. Ça correspond à leur calcul aussi. Donc voilà, depuis novembre 2015, les attentats, blabla, le Bataclan, tout ça. Donc état d'urgence. L'état d'urgence a été renouvelé à 5 reprises et aujourd'hui il y a des chances que ça soit la 6e. J'ai pas vérifié juste avant de rentrer en studio, mais ça devrait être fait cet après-midi. Donc état d'urgence, l'état d'urgence est a priori, souligne bien Amnesty, destiné à prévenir de nouvelles attaques terroristes. Mais ces mesures ont été utilisées pour, entre autres, pour interdire 155 manifestations. Donc tous les 3 jours environ, une manifestation est interdite en France sous ce prétexte.
Il y avait des manifestations, par exemple, qui a trait plus à l'écologie, qui avait pu être
ça avait commencé avec ça, parce que pas si longtemps que ça après les attentats, je ne me rappelle plus, mais dans le mois qui a suivi. Ouais. Oui, ça, c'est plus ou moins un mois après. Il y avait la COP21, il y avait plein de gens qui comptaient aller dire leur manière de penser à tous les dirigeants qui se réunissaient pour la COP21 et qui ont été interdits. Alors, les manifestations d'abord ont été interdites, et puis après, et on y arrive, il y a eu des interdictions individuelles de manifester. Et ça,
c'est un peu le pompon quand même.
Et ça, on en est à 639 en France, en tout cas qui ont pu être recensés par Amnesty, donc des interdictions individuelles, des gens chez qui les flics sont allés pour leur dire, toi, tel jour où il y a manifestation, t'es interdit de séjour dans tel endroit, tel endroit et tel endroit, qui sont les endroits traversés par la manif. Et donc, a priori, ces interdictions de manifester, donc 639 en tout pour ce qu'a pu compter Amnesty International, 574 dans le cadre des manifestations contre la loi travail, qui a vraiment été le moment d'explosion de ce truc-là. Mais déjà, il y en avait eu 21 dans le cadre des manifestations liées à la COP21. C'est-à-dire que nous, on a commencé à en entendre parler massivement un peu au moment de la loi travail, mais en réalité, dès le départ, l'état d'urgence, dans le premier mois, a déjà été utilisé comme ça.
Puis c'est presque plus puissant que ça, puisque c'est pas qu'une interdiction de manifester, c'est des portions de territoire.
Donc c'est ça, c'est des arrondissements entiers. Interdiction de séjour, voilà, à Paris, dans les arrondissements qui doivent être traversés par la manif.
Ce qui est une atteinte à la liberté de se déplacer qui est complètement incroyable, quoi.
C'est ça, et qui est d'autant plus incroyable que souligne Amnesty, qui encore une fois est extrêmement intéressé par le droit. Alors eux, ils disent en admettant que les manifestants, que les personnes visées, on puisse prouver que réellement elles ont l'intention de faire un trouble à l'ordre public ou je sais pas quoi, il pourrait être légitime de prendre des mesures. Amnesty, c'est pas nous, hein, je le répète encore, nous on est un côté, les flics c'est un autre côté, Amnesty entre les deux. Mais Amnesty souligne bien que l'État n'a pas été en mesure de prouver que chacune de ces interdictions, donc parce que c'est ça aussi, c'est que dans une perspective de droit humain comme celle d'Amnesty, les choses sont extrêmement individualisées. Du coup, chaque personne qui reçoit une interdiction, il devrait pour chaque personne y avoir des preuves que cette personne constitue une menace à l'ordre public. Et là, en l'occurrence, de manière évidente, mais bon, ça avait déjà été souligné des tonnes de fois, mais l'État n'a pas du tout été en mesure de prouver que chacune de ces interdictions visait quelqu'un qui était effectivement une menace.
C'était au feeling.
Et alors, bien sûr que Amnesty nous dit aussi, de telles mesures sans lien démontré avec la lutte contre la menace terroriste, bah oui, effectivement, parce que les manifestants contre la loi travail étaient peu finalement soupçonnés d'appartenir à Daesh. Donc, de telles mesures, dans ces conditions, ont un impact démesuré sur le droit des personnes à exercer leur liberté d'expression pacifique. Alors après, qu'est-ce qu'on a ? De quoi il nous parle encore ? Il nous parle de l'usage récurrent de certaines pratiques de maintien de l'ordre qui sont contraires au droit international. Par exemple, la fouille systématique et en particulier, qui a été alors ça aussi beaucoup pratiqué pendant la loi travail, et en particulier la confiscation d'outils de premier secours, sérum physiologique, lunettes de piscine qui protègent des gaz. Bon, toutes sortes d'instruments qui peuvent difficilement être considérés comme des armes par destination. À moins vraiment que vous essayiez avec votre pipette de sérum d'asperger les flics.
Non, mais l'élastique
pour les noyer,
des lunettes.
Peut-être.
Ou avec ton citron.
L'élastique des lunettes qui pourrait. C'est ça.
C'est de l'inspiration.
C'est ça. Bon, en réalité, peu de chance. Et donc, ce qui a été énormément pratiqué pendant les manifs contre la loi travail, c'est que les flics fouillaient des manifestants qui arrivaient. Et quand ils croisaient des gens, en particulier les fameux street medics, les gens qui étaient dans les manifs avec vraiment l'idée de pouvoir porter secours aux manifestants qui s'étaient pris des pains, tous les matériels de premier secours étaient systématiquement confisqués.
Et puis on peut tous et toutes témoigner de fouilles sélectives, c'est-à-dire que pour peu que t'aies pas une tête trop, tu passais tranquillement sur le pont qui s'appelle je sais plus comment là, juste à la sortie de la radio, le grand pont là.
Oh, je sais pas comment.
Bon, bref, le pont qui enjambe le Rhône, il y avait on passerait l'expression du tri sélectif hein, quand même. Hein.
Mais oui, et Street Medic qui moi je trouve avant la travail, on voyait ça dans les manifs tels que des contre-sommets, enfin les vraiment très grosses manifs avec plein de gens, avec une répression ultra forte et tout. Et là, c'est apparu, c'est assez présent dans ces manifs de loi travail aussi. Enfin, je veux dire, elles ne sont pas pointées là parce que
dans des mouvements sociaux, syndicaux.
Oui, c'est ça. Normalement, c'était pas courant, quoi. Et là, c'est vraiment parce qu'il y a eu une répression et notamment l'usage de grenades, des encerclements.
Alors, on y vient.
Ah,
on y vient. Alors, on va quand même continuer sur ces pratiques policières que Amnesty qualifie de contestables. Et là, il parle aussi des stratégies de maintien de l'ordre. Par exemple, disent-ils, l'usage fréquent et prolongé des NAS. Cette pratique qui vise à confiner des manifestants pour les empêcher de manifester, c'est-à-dire en gros des flics qui encerclent un bout de la manifestation ou une manifestation en entier. Et puis qui les garde alors qu'ils ce qu'ils expliquent bien c'est que c'est un truc qui est effectivement une stratégie de maintien de l'ordre qui peut être compatible avec le droit international avec les pratiques tout ça à condition que ça soit vraiment des trucs hyper localisés que à un moment t'as besoin de séparer par exemple un groupe de manifestants violents d'un autre groupe dans ce cas-là tu fais ça le temps que ça doit durer et puis du point de vue des droits humains c'est ok. Mais là, en l'occurrence, ce que souligne Amnesty, c'est que ces NAS ont pu être maintenus pendant extrêmement longtemps et que les personnes NASées ont souvent été des manifestants pacifiques.
Et puis c'était des NAS préventives, c'est-à-dire que c'est vraiment
des NAS préventives.
Tu disais que l'emploi d'une NAS, la technique de la NAS pouvait répondre à une situation qui déborde, quoi. Sauf que là, c'était vraiment le préfet qui a dû dire à allô Jean-Luc, ça va déborder ou en tout cas on peut imaginer que. Donc,
mais alors ça c'est encore un problème, c'est de savoir dans quelle mesure c'était on peut craindre que ou alors c'était autre chose. Mais ça on y vient après. Et ça c'est mon petit commentaire qui est pas dans le rapport d'Amnesty. Mais du coup Amnesty parle d'usage fréquent et prolongé de ces NAS et souligne le fait que c'est des stratégies qui mènent à une hausse des tensions. Et ça, attention, on le garde en mémoire pour tout à l'heure. Donc Amnesty parle de hausse des tensions tout en disant qu'il existe d'autres stratégies de maintien de l'ordre qui visent à diminuer les tensions plutôt qu'à les attiser. Mais qui sont pas utilisées, enfin en tout cas par exemple qui n'ont pas du tout été utilisées pendant les manifs contre la loi travail. Un usage disproportionné et arbitraire de la force. Alors, il nous parle de plus de 1000 personnes qui auraient été blessées rien qu'à Paris. Bien sûr, ils n'ont pas compté une à une, mais c'est aussi comme ça qu'ils bossent Amnesty. C'est qu'ils recueillent des témoignages, ils les recoupent pour essayer de savoir ce qui est crédible. Et donc, ils arrivent à être sûrs qu'il y a eu plus de 1000 personnes blessées. Alors, il nous précise, bien sûr, puisque, encore une fois, c'est Amnesty, ils sont entre les deux, hein. Les actes de violence de la part de certains manifestants à l'encontre des forces de l'ordre doivent être aussi condamnés. Toutefois, ils ne peuvent justifier une violence disproportionnée de la part des forces de l'ordre. C'est-à-dire qu'ils disent, bon, ok, il y a des manifestants qui sont allés bastonner des flics, et c'est mal, disent-ils. Mais en tout cas, que ça soit vrai ou pas, ça justifie pas du tout le fait que les flics débordent de ce qu'ils ont le droit de faire. Ces pratiques d'usage de la force, outre qu'elles peuvent avoir des conséquences dramatiques pour les personnes touchées, peuvent également, selon de nombreux témoignages, avoir un impact sur le droit de manifester en lui-même, puisque les personnes ayant peur de revendiquer leurs droits et de participer à des manifestations. Et ça, c'est un truc qui s'est passé pendant
la
c'est
vérifié.
C'était
hein,
tellement violent et qu'il y avait vraiment eu plusieurs fois où des parties de cortège ultra tranquilles avec famille, enfants, retraités, ont été attaqués par les flics de manière ultra violente et du coup qu'il y a des gens effectivement après qui se sont mis à flipper d'aller à des manifs. Pendant la conférence de presse pour présenter ce rapport, les gens d'Amnesty dénonçaient aussi la personne qui parlait disait des matraques, des balles en caoutchouc et du gaz lacrymogène ont été utilisés contre des manifestants pacifiques qui ne semblaient pas menacer l'ordre public. Ils avaient aussi invité à leur conférence un certain Laurent, secrétaire hospitalier, qui est venu témoigner. Et lui, il est pas venu parce qu'il a vu arriver des blessés, mais tout secrétaire hospitalier qu'il soit, il était allé manifester lui aussi. Alors il raconte son histoire, c'est la deuxième fois qu'il va manifester dans les 30 dernières années. C'est vraiment, a priori, c'est pas exactement le profil du casseur, quoi. Il a 47 ans. Et lui, au milieu de la manif, à un moment, il se dit, bon, je vais me barrer, mais quand même, il entend une explosion, il tourne la tête, et là, paf! Il perd un œil. Voilà, grenade de désencerclement. Bon, et puis Amnesty nous parle aussi de journalistes qui ont été intimidés et violentés, et nous dit les violences à l'encontre de journalistes et autres travailleurs des médias lors des récentes manifestations ont fait le tour de la presse. L'usage de la violence de la part des forces de l'ordre contre des personnes filmant ou documentant des manifestations est particulièrement inquiétant, car il remet en cause le droit à une information libre. Et ils expliquent que même en cas de violence, et donc même en cas de violence de la police, théoriquement, les autorités devraient permettre aux journalistes de mener à bien leur travail. Et là, voilà, en suivant de lien en lien, on tombe sur des histoires de, par exemple, il y a un journaliste qui a reçu une interdiction de manifester au même moment où les militants antifascistes en recevaient. Et elle était rédigée exactement dans les mêmes termes. Hein. Ça disait qu'il avait été présent dans des manifestations où il y a eu des débordements. Alors, bon, déjà à l'époque, on rigolait sur le fait que si tous les gens qui avaient été présents dans les manifestations où il y a eu des débordements avaient dû recevoir et c'était vraiment ça la justification, quoi. Avaient dû recevoir des interdictions de manifester, c'est pas 600 et des boîtes qui auraient fallu en distribuer, c'est des millions. Mais alors là, en plus, le gars, il était quand même journaliste. C'est-à-dire que d'être présent dans des manifestations où il y a des débordements, ça faisait un petit peu partie de son boulot. Et Amnesty nous dit enfin, alors termine en disant, manifester est un droit, pas une menace. Une manifestation doit toujours être considérée comme légale a priori, à moins que l'État puisse avancer des éléments précis qui justifient son interdiction. De plus, les actes de violence commis pendant une manifestation ne peuvent être imputés qu'à leurs auteurs individuels et ne suffisent pas à qualifier une manifestation en entier de violente, et donc tous les manifestants. Et voilà, bon, un petit blabla comme ça, où il termine en disant « Il est temps de mettre un terme à cette dérive, manifester est un droit, pas une menace. » Alors pendant la présentation du rapport, ils ont beaucoup insisté vraiment sur l'état d'urgence et tout ce que l'état d'urgence avait permis en termes de limitation de la liberté de manifester et de la liberté d'expression. Mais alors maintenant sur les manifestations de loi au travail, bon c'est juste pour rappeler une analyse qu'on avait déjà à ce moment, mais les violences policières ont été particulièrement fortes. On se souvient que c'était vraiment quelque chose de rarement vu contre des militants blancs, disons. Parce que après, c'est encore autre chose pour les émeutes de banlieue. Mais en tout cas, dans le cadre de manifestations syndicales, c'était vraiment un niveau très rarement vu. Et donc, la question est de savoir s'il s'agissait réellement de débordements de flics qui s'oubliaient ou de choses comme ça, ou si réellement il y avait une sorte de stratégie politique à ce moment-là. On se rappelle que le gouvernement était quand même très particulièrement impopulaire, que cette loi travail était très particulièrement impopulaire, et donc de faire en sorte que les manifestations deviennent des endroits dangereux, il n'est pas tout à fait interdit de penser qu'il y avait une volonté de faire peur aux gens et de les empêcher de les renvoyer à la maison, quoi.
Nous allons du côté du Panama.
Oui, Ted d'Ananas est mort. Il s'agit de Manuel Noriega, l'ancien dictateur du Panama, qui a dirigé plus exactement le Panama entre 83 et 89. Il est mort il y a deux jours, il avait 83 ans. Pourquoi c'est intéressant d'en parler? Parce que ça fait toujours un éclairage pour celles et ceux qui ont l'histoire dans les chaussettes sur ce qui s'est passé du côté de l'Amérique du Sud, même si c'est l'Amérique centrale.
Et même si finalement tu vas sans doute nous parler un petit peu d'Amérique du Nord.
Alors un tout petit peu d'Amérique du Nord, mais c'est parce que t'es un petit peu, comment on dit, un caractère un peu sceptique, parce que tu t'imagines tout de suite que la CIA a à voir avec toute cette histoire. Bref, probablement que tu as raison. Interrogation surprise, le Panama c'est où?
En Amérique centrale.
Alors c'est exactement en Amérique centrale, c'est un peu le trait d'union entre l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. C'est au-dessus de la Colombie, et c'est tellement au-dessus de la Colombie et en dessous du Costa Rica, c'est tellement au-dessus de la Colombie que, en fait, le Panama était avant, c'était le nord de la Colombie, et ce fameux nord a fait sécession en 1903 avec l'aide active des
Américains.
Voilà, donc finalement t'avais raison. Voilà. Alors Manuel Noriega, il est né en 1934. Alors, peut-être aussi en 1936 et éventuellement aussi en 1938. il est pas, ce tome-là n'a jamais été très clair sur l'âge, sur sa date de naissance. Et il est né donc dans la il est d'origine colombienne et c'est ce qu'on sent cette proximité entre le Colombie et le Panama. Alors il se trouve qu'on va aller assez rapidement dans les années 1968. Il y a un jeune général qui s'appelle Omar Torrijos qui renverse le président du Panama de l'époque et qui s'impose comme dirigeant de facto. Et il nomme à la tête du renseignement militaire, donc c'est un poste très clé, il nomme justement ce fameux Manuel Noriega. Alors, il se trouve que ce jeune général, Torrijos, il inquiète un petit peu Washington parce qu'il a une politique d'inspiration castriste, donc plutôt communiste. Et ça, c'est vraiment le truc que Washington n'aimait pas du tout à l'époque, et ils n'aiment toujours pas, je pense. C'était vraiment la hantise de l'effet domino du côté de l'Amérique du Sud, c'est que si un pays de la zone devient communiste, eh bien les autres tomberaient les uns après les autres. Alors, étonnamment, les États-Unis vont finalement tolérer cette expérience entre guillemets terroriste là avec ce général communiste, et peut-être justement parce que Noriega, donc, c'est leur homme de confiance, et puis il a un poste clé. On retrouvera plus tard des fiches de paye émises par la CIA pour payer Noriega dans ces années-là, quoi. Voilà. Alors, au moment où c'est Ronald Reagan qui arrive à la Maison Blanche, donc ça c'est plutôt dans les années 80, ce monsieur Torrijos, il meurt dans le crash de son avion. C'est pas de bol, hein. Tu vois, on imagine que...
C'est des choses qui arrivent, que les présidents meurent finalement pas si rarement que ça dans des crashs d'avion.
Ben écoute, c'est des choses qui arrivent, alors pas de bol, ça arrive 2 mois après, la même chose pour le chef d'État latino-américain de l'Équateur qui s'appelait Jaime Roldós, qui lui aussi est mort dans son
avion.
Qu'est-ce
que je disais ?
Qu'est-ce que tu disais ? Alors lui, il était vraiment, vraiment mal vu par les États-Unis, donc bon, un effet domino. Et en plus, cet homme-là, donc, pour faire une petite digression, cet équatorien, il venait de proposer une loi sur les hydrocarbures qui était très défavorable aux intérêts des compagnies pétrolières américaines, et boum patatras, son avion est crashé. Et donc, l'avion du général Torrijos est aussi crashé. Alors on peut imaginer, certains le disent, que Face d'Ananas, donc c'est le surnom de Manuel Noriega, parce qu'il a, vous devez connaître, il avait une peau bourrée d'acné, avec la peau très pleine de trous, donc c'était son surnom. On peut imaginer que Manuel Noriega l'ait poussé un petit peu dans cet avion qui a fait... Voilà, donc le voici arrivé en 83 à la tête du Panama, sans avoir été élu. Il devient donc une espèce de dictateur, un président de facto, si vous préférez cette formulation. Et là, c'est la lune de miel avec Washington, puisqu'il autorise l'installation, alors on le saura après, hein, d'un centre d'écoute qui va permettre d'espionner toute la région. Donc dans le Panama, c'était vraiment l'avant-poste de Washington dans la lutte contre les mouvements d'inspiration communiste en Amérique centrale. Et puis Noriega a accueilli...
Ça c'était en quelle année, tu nous as dit ?
Donc ça c'est plutôt 83, donc c'est ça commence à être la fin de certaines dictatures dans l'Amérique du Sud, mais là il parle vraiment du contrôle de l'Amérique centrale. Grosse présence américaine, 10 000 hommes qui sont acceptés, 50 000 résidents. Alors, évidemment, ce Noriega, il est aussi connu par la façon dont il muselle la presse, dont il réprime l'opposition. Il y a un de ses principaux détracteurs, Hugo Spandofra, qui a été retrouvé, on a retrouvé son cadavre supplicié et décapité, donc il s'est trouvé que ça s'est su, que l'opinion a commencé à s'en émouvoir, et puis la sauce a commencé à devenir un petit peu mauvaise pour Noriega. Alors, il en est quand même réussi à s'en sortir, il a continué à avoir la confiance des États-Unis, aussi la confiance de Castro, donc c'était un peu un équilibriste. Et puis il est passé en 87 en France, il a été reçu par Mitterrand, il a eu la Légion d'honneur quand même, hein. Ça c'est pas mal. Et puis on arrive dans des événements historiques plein assez croustillants, vous allez le voir. Il se trouve que cette même année, il a été accusé, enfin, tout le monde savait plus ou moins qu'il était en lien avec le cartel de Medellín, donc ça c'est le trafic de cocaïne entre l'Amérique du Sud et les USA, donc évidemment ça passe par l'Amérique centrale. Alors, le parrain du cartel de Medellín, c'était
Pablo Escobar.
Pablo Escobar. Et il se trouve qu'il aimait bien le Panama parce que c'était une plateforme logistique assez sympa. Puis il y avait un secret bancaire généralisé, donc qui permettait de blanchir l'argent.
Il y a toujours, hein, si on... je m'abuse.
Voilà, c'est ça. Donc c'est toujours super sympa pour blanchir l'argent de Radio Canu. Bien sûr, c'est ce qu'on fait tous les jours. Et puis, bon, ça a quand même commencé à tourner mal pour lui. Les histoires de drogue, ça a commencé à devenir pas très reluisant du côté des États-Unis. Puis, en fait, quand la guerre froide a été terminée, Noriega est devenu infréquentable parce que finalement la guerre contre la drogue est devenue une priorité par rapport à la guerre contre l'expansion du communisme qui était en train de se casser la gueule, quoi. Et donc tout ça pour dire qu'en 89, Noriega a poussé le bouchon un peu trop loin. Il a annulé, enfin plutôt, il y a eu une élection. Il a viré celui qui avait gagné l'élection et ça en a été trop. Les Marines américains sont arrivés le 19 décembre 89 avec pour mission de le capturer. Alors, juste avant de le capturer, il y a quand même des petits événements sympas. C'est que les Américains sont venus à 28 000, je crois. Ils ont tiré dans le lard plein pot. Je crois que c'était Bush qui était à la tête de tout ça.
Oui.
520 morts. On parle même d'un bilan 10 fois plus élevé, avec des bavures de tous les côtés. Un photographe espagnol abattu dans une zone où il n'y avait aucun danger. Des fosses remplies de corps. Et puis, le pire, c'est que donc ce massacre généralisé fait par les Américains, qui est-ce qui a échappé à cette rafle ?
Noriega.
Ben oui, parce qu'il a réussi à s'échapper et il est allé se planquer à l'ambassade du Vatican. Voilà. Et là, j'ai presque fini.
Alors, quand même, a priori, c'était la première et je pense, à mon avis, jusqu'à aujourd'hui, la seule fois où les États-Unis, même eux, sont intervenus pour arrêter le président en exercice d'un pays étranger à l'intérieur même du pays. C'était quand même vraiment un truc un peu gonflé, quoi.
Ouais, c'est qu'il devait devenir vraiment infréquentable. Juste quand même, il y a des images qui sont sorties où on le voit balancer des coups de batte de baseball à des opposants à Mariel Noriega. Donc ça a dû pas plaire au niveau de la presse américaine et donc il y a eu un truc en cascade. Donc on en est où ? On en est à Manuel Noriega qui est dans l'ambassade du Vatican. Alors pour le déloger, que font les Américains ? Ils vont mettre 3 jours de heavy metal à fond, un volume assourdissant.
C'est un peu leur spécialité,
c'est vraiment vrai. Pour faire sortir Manuel Noriega, parce que visiblement, c'est quelqu'un qui détestait la musique anglo-saxonne.
Alors, on peut partir du principe que le heavy metal est une musique, pour certaines oreilles, un peu pénible en soi. Mais après, la musique très très forte, c'est quand même vraiment très loin au-delà de ça.
Ça a été utilisé.
On peut faire une seconde la pub du bouquin d'une sorte de copine de radio, Juliette Volcker, le bouquin Le son comme arme est hyper intéressant là-dessus.
Voilà, on en avait déjà parlé sur cette antenne. Juste pour préciser, on a même les morceaux qui ont été balancés aux oreilles. Il y avait du Guns N' Roses, il y avait du Jimi Hendrix et des The Clash, donc c'est pas vraiment du metal, mais bon. Donc le truc, c'est qu'au bout de 3 jours, lui, Manuel Noriega, il a tenu, mais... Eh ben, c'est le Saint-Siège qui a carrément appelé Bush pour dire, écoutez, à balancer cette musique devant l'ambassade du Vatican, on n'en peut plus, quoi. Et donc, il y a eu des tractations et au final, Noriega s'est rendu. Mais il n'y a eu que 3 jours de musique hard à Donf et il a tenu 12 jours. Il a été, jugé. Il y a eu assez peu de révélations sur ses liens avec la CIA, par exemple, qui sont sortis. Pas grand-chose. Il a fait de la tôle en Floride pendant 17 ans. Après, il a été extradé en France pour blanchiment d'argent. Et puis en 2015, il est revenu au Panama parce que ça n'allait pas du tout, une tumeur au cerveau qui l'a conduit au décès. Voilà, donc c'était pour profiter de du décès de cet homme-là pour parler des liens un peu scabreux entre les États-Unis et cette zone du monde.
Et on va se faire une petite pause musicale. Et nous venons d'écouter Cascarabias avec le titre Arto Cascarabias qui signifie râleur.
Et on part du côté de Calais avec encore une fois un article tiré de ce site hyper bien qui s'appelle Passeur d'Hospitalité. L'article s'appelle Une répression moins visible mais tout aussi présente. Et il est daté de avant-hier. De manière visible, les migrants sont de retour à Calais. On peut les voir en ville et notamment dans les parcs publics. La répression à leur encontre est devenue moins visible en centre-ville. Si, il y a deux semaines encore, les CRS chassaient les personnes d'apparence étrangère des parcs, c'est-à-dire globalement les personnes bronzées, la police nationale y circule maintenant en voiture et les gendarmes mobiles à pied sans effectuer de contrôle. De même, si les gendarmes mobiles sont encore en faction à la gare, c'est sur le côté, plus loin de l'entrée, et les contrôles au faciès ont cessé. Depuis le temps, ce changement succède immédiatement à la forme dans le temps, pardon, c'est-à-dire d'un point du point de vue du temps, ce changement succède immédiatement à la formation du nouveau gouvernement. Bon, rien ne présage s'il durera au-delà des élections législatives dont le résultat est incertain. Mais au-delà de cette visibilité au centre-ville, la répression à l'encontre des exilés continue de manière identique et peut-être aggravée. Dès qu'on sort du centre-ville, donc. La plupart des exilés dorment en effet dans des conditions extrêmement précaires à la périphérie, sans pouvoir construire de cabane, sans tente ni bâche, puisque les associations ayant le plus de moyens logistiques refusent d'en distribuer. Et là, loin du regard de la population, les forces de police et de gendarmerie, eh ben, elles continuent, elles chassent, elles arrêtent, elles détruisent les effets personnels, elles gazent. Alors, que ça soit, bon, après, c'est les noms d'endroits à côté de Calais, hein, mais le Bois du Brûle, près du lieu où se font les distributions de repas dans la zone industrielle des Dunes, près du parc Chico Mendes, entre la ZUP de Beaumarais et la zone industrielle Marcel Doré, dans les terrains parsemés d'étangs entre la route de Saint-Omer et l'échangeur autoroutier ou à la limite entre les communes de Marc et de Calais, près des parkings sécurisés où se garent les camions pour le Royaume-Uni. Partout dans ces endroits, la police continue à chasser comme avant.
Et on va revenir sur un massacre qui a eu lieu en Guadeloupe il y a 50 ans.
Ouais, c'est d'une chasse policière à l'autre. On se décale sur dans le temps et dans l'espace pour parler de ce qui s'est passé il y a exactement 50 ans, le 26 et le 27 mai 1967, en Guadeloupe. Alors déjà, c'est vrai qu'on parle pas souvent des Antilles du côté de la métropole. On peut imaginer que ça intéresse pas grand monde, mais il s'y passe plein de choses. Il y a plein de gens qui méritent d'être écoutés et dont on mériterait dont on parle. Donc ça, c'est des commémorations qui ont eu lieu par rapport à une répression qui a eu lieu donc il y a exactement 50 ans de manifestations ouvrières et lycéennes. Et je vais vous détailler ça. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que la façon dont cette répression a eu lieu, elle évoque une méthodologie répressive qui fait un petit peu écho à tout ce dont on vient de parler depuis environ une petite demi-heure. Alors, on va parler d'un monsieur qui s'appelle Pierre Bolotte. Il se trouve que c'est le préfet de la Guadeloupe au moment de la répression. Alors, juste pour vous parler de ce gars-là, il se trouve qu'il d'abord il est allé en Indochine. Il a vu plein de choses en Indochine, alors que je me loupe pas. Il a fait partie des cadres qui ont participé à la réflexion, à l'expérimentation de formes militaro-policières de répression et qui donne naissance à la doctrine de la guerre contre-révolutionnaire dont on parle régulièrement. Hein. C'est une forme de contre-insurrection veut aller dans toutes les strates de la population pour aller détruire un peu tout. Et c'est particulièrement affreux et c'est très très français.
C'est l'idée que les guérillas et les mouvements armés sont comme des poissons dans l'eau et que si on enlève l'eau, le poisson il clame. C'est du coup l'eau, c'est quoi? C'est la population globalement.
Voilà, donc ça c'est arrivé comme une lumière à ceux qui étaient en Indochine. Ça a été particulièrement appliqué en Algérie. Et donc, incroyable. Je vous parle de Monsieur Bolot. Il avait été affecté à sa demande en Algérie. Il a, j'ouvre les guillemets, évidemment, les guillemets, c'est lui qui parle, la possibilité, à l'époque, hein, dans les années 60, la possibilité de mettre en action ce que m'avaient appris les affaires d'Indochine. Il a écrit ça dans ses mémoires. Et puis dans une lettre confidentielle qu'il envoie au Premier ministre en 1956, il propose pour l'Algérie un pouvoir fort, peut-être même dictatorial. Voilà, donc quelqu'un vraiment super. Et à Alger, Bolot crée et répartit des patrouilles de 8 à 10 hommes dans les quartiers sensibles, c'est comme ça qu'on le disait. Et il leur propose des missions de surveillance, et il utilise même une nouvelle méthode qui consiste à créer des patrouilles de militaires ou de CRS qui sont livrées à elles-mêmes. Donc c'est un peu le côté des patrouilles de commandos de police qui sont autonomes, quoi. Donc on croit rêver, évidemment, qui sont absolument sous aucun contrôle et qui peuvent faire une répression un petit peu de tous les instants. Voilà. Alors en juin 1965, il obtient son titre de préfet et c'est là qu'il est né, il est nommé, pardon, en Guadeloupe. Et puis il dit ceci, j'ouvre les guillemets, je suis informé et convaincu de l'existence de plusieurs petits organismes qui militent pour l'autonomisme et même pour l'indépendance. Donc ça, c'est le truc, c'est son caillou dans le pied. Il pense que la terre entière, en tout cas il parle de petits groupes, mais la terre entière du côté de la Guadeloupe s'organise pour vouloir l'autonomie. C'est vrai que du côté de la Guadeloupe, il y a eu des velléités autonomistes qu'il y a par exemple moins eu en Martinique. Alors, il se trouve qu'en 1966, il y a eu un cyclone sur l'île. Ça a, si vous voulez, intensifié les inégalités qui étaient déjà très présentes. Et puis, il y a eu une forme de colère sociale qui s'est lancée. On parle d'un exemple du 20 mars 67, dont à Basse-Terre, donc dans la ville qui est sous le volcan de la Soufrière. Eh bien, un riche marchand blanc a lancé son chien contre un cordonnier noir handicapé. Et là, il y a eu une révolte qui s'est mise, le magasin a été mis à sac, et Bolot y allait, il a envoyé la police et des renforts de gendarmerie pour, dit-il, disperser. Et il a interdit toute réunion et menacé les agitateurs irresponsables. Voilà. Alors après, il y a fin mai, les ouvriers du bâtiment qui ont entamé une grève pour les augmentations de salaire. Et on arrive à ce fameux 26 mai, avec une manifestation devant le siège où les négociations sont bloquées entre le patronat et le préfet, à propos de ces augmentations de salaire. Et donc, eh ben, l'ordre est donné au CRS de disperser tout ce petit monde. Et on tire, les flics tirent. Et alors, c'est pas de bol. Sans faire exprès, ils ont tué d'une balle dans la tête un Jacques Nestor, qui était un militant autonomiste, qui était ciblé par les renseignements depuis assez longtemps. Et puis, donc ça c'est sûr, hein, il a été abattu, faut être clair. Hein. Et puis il y a deux autres manifestants qui s'effondrent une balle dans le front, directement. Hein. Et donc, Jacques Faucard, qui était secrétaire général de l'Élysée aux affaires africaines et malgaches à l'époque, voilà, il dit ceci, il a fallu dégager la place avec une certaine violence. Voilà. Donc on a abattu des gens, donc ce 26 mai 1967, c'est l'État français qui l'a fait. Alors la nouvelle se répand et Pointe-à-Pitre se met à se soulever, parce que tout le monde a bien compris que c'était des assassinats ciblés. Bolot, le préfet, déploie des gardes mobiles, qui étaient en plus pour la plupart formés dans et par la guerre d'Algérie, donc rompu à ces techniques de guerre révolutionnaire, voilà. Et des témoins décrivent plusieurs personnes abattues dans la rue, des tabassages, des corps qui sont emmenés à la sous-préfecture, des tortures et des disparitions forcées. Et puis, le lendemain, c'est le 27 mai, il y a un millier de lycéens qui défilent dans les rues pour soutenir les ouvriers et dénoncer la répression. Et là, c'est pareil, les gendarmes tirent. Voilà. Donc ça, moi, je connaissais pas cet épisode-là de 67. On parle de 8 morts. Il y a d'autres personnes qui parlent de 87 morts. Toujours est-il qu'il y a eu un massacre en Guadeloupe par l'État français il y a 50 ans. Voilà. Alors, je vous conseille de ne pas aller regarder ce qui est écrit dans Wikipédia sur ces émeutes parce que c'est particulièrement édulcoré. Voilà, ce récit vient plutôt de ce que j'ai pu trouver sur le site Bastamag,
qui est un site d'information très sérieux. Et on va s'écouter le début d'un petit reportage dont on vous parlera tout de suite après.
autour de Paris, il y a des espaces agricoles importants, mais il faut arrêter, qui diminuent au fur et à mesure de qu'on bétonne, et il faut arrêter de bétonner, parce que avec le temps, l'autonomie alimentaire de l'Île-de-France diminue. Alors c'était les greniers de Paris, mais quand on parle de greniers, c'est vrai que... Alors, il y avait une production de farine, parce qu'en plaine de France, il y avait beaucoup de blé, et que Gonesse est sur une petite rivière qui s'appelle le Crou, et sur laquelle il y avait des moulins, et qui produisaient de la farine de grande qualité, qui servait à alimenter Paris. Mais ça ne veut pas dire que Gonesse était... Moi, je le pensais aussi. Ça ne veut pas dire que Gonesse était un espace agricole dédié à la céréaliculture. Et on a ici, à l'heure actuelle, oui, c'est devenu quasiment totalité des céréales. Mais on a des céréaliers qui sont en fait d'anciens gros exploitants maraîchers. Les maraîchers qui étaient ici, ils alimentaient en légumes.
Voilà, c'est un reportage qui s'appelle Contre Europa City, qu'on peut retrouver sur le site lundi matin, lundi.am. Alors, Europa City, c'est un truc, c'est super. C'est vraiment super. C'est
ça comme, m'étonne pas que ce soit fan.
Ouais. C'est un peu comme ce qu'ils veulent construire à Roibon. Enfin, à Roibon, c'est plus pour le fun. Mais là, c'est encore mieux puisque c'est porté par Auchan et toute sa philanthropie et un investisseur chinois, probablement philanthrope aussi. C'est soutenu par la région Île-de-France et par l'État. Et c'est un petit projet sympa qui grignoterait 700 hectares de terres agricoles. Donc, c'est ce qu'explique ce monsieur-là. Et en fait, documentaire que vous pouvez retrouver, donc, qui s'appelle Contre Europa City, Doc Durel, explique que les gens veulent plutôt des radis, pas des caddies, des patates et des radis, non à Europa City. Parce que Europa City, c'est juste un projet d'hypercentre commercial énorme avec des pistes de ski. Donc c'est à Paris, hein. C'est à Gonesse, il le dit le monsieur, c'est dans la banlieue parisienne, avec une piste de ski géante et puis tout un tas de trucs géants, hyper complètement mégalo. Et puis c'est sur des terres agricoles et puis c'est complètement n'importe quoi. Et puis c'est super, ça va bouffer une énergie folle. Enfin c'est juste l'archétype du projet qui est en fait pas moderne, quoi. Voilà. Donc Europa City, c'est probablement quelque chose qu'il va falloir combattre dans les mois à venir. Et il y a ce reportage qui est un peu la palme d'or du festival de Cannes, pour faire un très mauvais jeu de mots, mais on est conscient que le jeu de mots est mauvais quand même.
Et bien il est 19h53, c'est l'heure de la fin de ce Cannes Info.
Ah oui, déjà, avec 7 minutes d'avance.
Et pas le temps d'écouter 7 minutes de bande continue et de laisser la place ensuite à Idée Noire, l'émission de la coordination des groupes anarchistes.
Et nous, on retrouve la semaine prochaine. Ciao.
Merci de nous avoir écoutés.
Ciao.